on va dédier le cours pour l'anniversaire de notre ami David. On va lui souhaiter beaucoup de hatzlacha, beaucoup de réussite dans tout ce qu'il entreprend.
Amen.
Et comme c'est son mazel qui brille, donc normalement c'est lui qui doit nous bénir.
Exactement.
Alors qu'est-ce qu'on va nous souhaiter ?
Que Dieu vous bénisse.
Voilà. Que Dieu nous bénisse.
Quoi, tu vas parnasser ?
Oui, vas-y, vas-y.
Et je cherchais, j'avais toujours à l'approche, approchez-vous. Toujours à l'approche des. De toute façon, on sera moins nombreux ce soir, je pense. Toujours à l'approche des fêtes. On fait un cours hors série sur la fête. On l'a fait avant Pessah, on l'a fait avant Shavuot, toujours à l'approche des fêtes. Et là, je cherchais un cours dans mes références, dans mes affaires. J'ai cherché un cours qui est en rapport avec Shavuot et aussi en rapport avec David.
Oh.
Et j'ai trouvé un cours intitulé Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov. Alors, David, je préfère te prévenir que ce que je vais dire ne va pas forcément te flatter. Ça va te flatter, mais ça va te montrer les grandes énergies qu'ont les David. Et en vérité, on est tous des petits David. D'accord ? Mais bon, on va développer. Alors, tout d'abord, petite introduction. On s'approche de la fête de Shavuot. Ce Shabbat sera le 49e jour du Homer. Samedi soir sera le 50e jour du Homer. Donc, 50e jour du Homer, c'est la fête de Shavuot. Shavuot, c'est le 50e jour depuis le début du Homer. Le Shavuot, c'est aussi la fête dans laquelle Shabbat on célèbre Matan Torah Tenu, le don de la Torah. Ça, c'est la base. Vous demandez même à un enfant, tu lui dis, c'est quoi Shavuot? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te répondre, il va dire, Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. On a compté 7 semaines, on a compté, on a attendu. Les enfants, ils ont pris ça à l'école. Hein. On a attendu, on a compté, ils ont fait des compteurs avec des trucs qui tournent, etc. Voilà. 50e jour, 7 semaines, bon, voilà. 50e jour, c'est la fête de Shavuot. D'autant plus que le 6 Sivan, c'est le jour de l'anniversaire du don de la Torah, le jour où Dieu nous redonne la Torah chaque année. Et les enfants sont au courant de leur fonction. Cependant, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un événement qui s'est passé à Shavuot, mais pas en 2448. Parce que là, l'événement du don de la Torah, il s'est passé en 2448. 2448, nous sommes aujourd'hui en 5178, c'est-à-dire que ça fait 3330 ans. D'accord ? Oui, 3330 ans. Alors, mais aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur ce qui s'est passé à 3330 ans. On va s'arrêter sur des événements qui se sont passés pendant la fête de Shavuot, mais des années plus tard. Trois événements qui se sont passés. D'accord ? On va parler de Moïse, la mort de Moïse, d'accord ? Enfin, pas la mort de Moïse, pardon. On va parler de Moïse, on va parler du roi David, et on va parler du Baal Shem Tov. Et on va essayer d'expliquer, donc c'est pour ça que vous voyez le support que vous avez devant vous, vous remarquez, vous le verrez face A et face B, qu'il y a des colonnes, d'accord ? Colonne A, B, C. Et en fait, tout le cours, on va suivre, il y aura toujours, on va beaucoup tourner autour du chiffre 3, on va parler de trois personnages, Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov. On va expliquer le rapport que les trois ont avec Shavuot. On va expliquer l'apport que les trois ont donné au peuple juif. Et le rapport qu'il y a entre leur personnage et Shavuot. Maintenant, encore une fois, ces trois grands maîtres n'ont pas vécu du tout dans la même période. Bon, Moïse, c'est vrai qu'il a vécu au moment du don de la Torah. Le roi David, c'est près de 500 ans plus tard. Le Baal Shem Tov, n'en parlons pas. Le Baal Shem Tov est contemporain. Le Baal Shem Tov, c'est 300 ans, 3 siècles. D'accord, donc c'est récent. Et donc, comment on peut mettre les trois dans le même panier? Comment c'est possible? Et bien vous allez voir qu'il y a un point commun qui est très fort, il suffit de s'approfondir un petit peu. Donc encore une fois, on va pas s'arrêter aujourd'hui sur ce qui s'est passé le 6 Sivan 2448 et 3300 ans, d'accord? On va s'arrêter sur des événements qui se sont passés à Shavuot, pendant la fête de Shavuot, mais des années plus tard. Des années plus tard, espacées de plusieurs siècles à chaque fois. Et on va essayer de trouver un fil conducteur, et c'est pour ça qu'on a trois colonnes, colonne A, B et C, pour essayer de comprendre à chaque fois le fil conducteur, quel était l'apport de Moïse sur toute la ligne, quel était l'apport du roi David sur toute la ligne, et quel était l'apport du Baal Shem Tov sur toute la ligne. Je dis quel était, mais c'est une erreur. Vous verrez qu'à la fin du cours, on ne dira pas quel était, mais on dira quel est. Parce qu'en vérité, on verra que le Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov ont un apport sur nous jusqu'aujourd'hui. Bien. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, on va passer directement aux références. Donc, trois maîtres d'Israël sont liés particulièrement à la fête de Shavuot. Je vous les ai donnés. Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov. Quel rapport entre Moïse et la fête de Shavuot? Celle-là, elle est facile. Parce qu'il est écrit dans la paracha Vezot HaBeracha, Torah Tzivalanu Moshe, Moïse nous prescrit, nous dicta la Torah. C'est-à-dire, on le sait, si tu demandes même un enfant, n'importe qui, tu dis, qui c'est qui a dicté la Torah? Qui c'est qui a été l'émissaire entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif? C'est qui? C'est Moïse. Donc la star de Shavuot, c'est qui?
Moïse.
On est d'accord? Même dans le film, c'est comme ça. C'est vrai, hein?
Il vient de passer à la télé.
Ah bon, bon. Bon, j'ai pas vu le film, mais. Donc, la star de Shavuot, c'est qui? C'est Moïse. Donc, ça, c'est clair que Moïse a un rapport avec Shavuot. Moïse n'est pas mort à Shavuot. Moïse, il est niftar le 7 Adar. Mais Moïse a un rapport avec Shavuot, on est d'accord? Très bien. Maintenant, le roi David. Quel rapport entre le roi David et Shavuot? David met Ba'atzeret. La Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, nous dit, juste à côté, que le roi David est décédé à Shavuot. Et d'ailleurs, on nous raconte, on nous dit que les Bnei Israël, ils étaient du coup en deuil pendant Shavuot, parce que le roi David était parti. Donc ils ont offert que les sacrifices, le minimum, quoi, ce qu'il fallait offrir. Tout le reste, ils ont mis de côté. Et ils ont offert après les Shiva de David, c'est là qu'ils ont offert. Donc David Amelech est décédé à Shavuot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup qui ont l'habitude de lire pendant la fête de Shavuot, de lire Tehilim, ouais, et de lire aussi Ruth. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Ruth, on raconte toute l'histoire avec Orpa, etc. Finalement, de ce qui va se passer avec Ruth, va naître plus tard le roi David. D'accord? Donc, le roi David est lié à Shavuot. Très bien. Enfin, le Baal Shem Tov. Alors, le Baal Shem Tov, c'est plusieurs siècles plus tard. J'ai même envie de dire des millénaires plus tard. Et là, on a une référence dans l'écouté d'Ibourim, qui nous dit que le Baal Shem Tov, istalkuto beyom alef de chag Shavuot. Le Baal Shem Tov a disparu, est parti de ce monde, le premier jour de la fête de Shavuot. Donc on a ici trois grands maîtres liés à la fête de Shavuot. Moïse, le roi David, et le Baal Shem Tov. Alors, vous savez, chaque chose que Dieu fait n'est pas par hasard. Si Dieu fait que trois maîtres tournoient autour de Shavuot, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire qu'il y a certainement un point commun entre ces trois maîtres, qu'on va trouver. A priori, il n'y a aucun rapport. Quel rapport entre Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov? C'est des grands maîtres, c'est des rabbins qu'on respecte, mais il n'y a pas de rapport entre les trois. Si Dieu a fait que les trois tournent autour de Shavuot, c'est que certainement, il y a un rapport entre les trois. Premièrement. Donc, on va développer. Deuxièmement, certainement que ce rapport est lié à Shavuot, au concept de Shavuot, donc au nom de la Torah. Troisièmement, certainement que chacun de ces trois, même s'ils ont un point commun, chacun de ces trois a apporté un apport particulier. Une façon nouvelle de faire les choses. D'accord? Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous montrer comment, en vérité, on va trouver tout de suite un point commun entre ces trois maîtres. Le point commun, c'est quoi? C'est la royauté. Chacun de ces trois maîtres innova un aspect différent de la royauté d'Israël, qu'on va développer. Tout d'abord, on va commencer par Moïse. Donc, je vous rappelle, on prend toujours colonne gauche, droite, droite, hein, comme ça on suit. D'accord? On va commencer par Moïse. Référence numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Rambam, Maïmonide, dans une référence que j'ai ici devant, Rambam nous dit que Moshe Rabbeinu, voilà, j'ai ici la référence, Moshe Rabbeinu, Melech Haya. Moïse était roi. Les gens ne le savent pas, ça. C'est-à-dire que Moïse était roi. Vous allez me dire, ça change quoi, roi? Qu'est-ce que ça veut dire, roi? Alors, on va développer ce que ça veut dire, roi. Déjà, je vais vous montrer que Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov, les trois étaient liés à la royauté. Après, on va développer ce que ça veut dire la royauté, parce que c'est un concept qu'on n'aime pas aujourd'hui, la royauté. Bon, mais d'abord, on va expliquer. D'abord, on cite. Donc, Moïse était roi d'Israël. C'était un roi. En fait, Moïse était tout en même temps. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore la séparation des pouvoirs. Donc, Moïse était le chef, il était le roi, il était le juge, il était tout en même temps. Parce que tout le monde lui faisait confiance. C'est seulement lorsqu'on est rentré en Israël qu'on a décidé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que même en Israël, c'est comme ça, même aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le juge et le président, c'est pas la même personne. Ça va? Parce que sinon, c'est une catastrophe. Si le juge et le président, ça ne tient pas. On appelle ça la séparation des pouvoirs. Mais Moïse n'avait pas ça. Moïse était le roi d'Israël. Maintenant, si je vous dis David Améler, le roi David. Tiens, David, tu vas nous répondre à cette question.
Oui.
Le roi David. Quel rapport entre le roi David et la royauté?
C'est le roi.
Hein? Ben voilà. David a Meler. Ça veut dire quoi, Meler?
Le roi.
Là, c'est clair. Mais pas seulement ça. Non seulement que David lui-même était roi, mais David a hérité la royauté. Lui, comme on voit dans la référence de Maïmonide ici, Kevin Chenimchar David, dès que David fut loin, Zacha Becheter Malchut Adolam, il mérita la couronne de la royauté à vie. Ça veut dire que le roi David a eu cette chance. Normalement, un roi, il est nommé après.
De père en fils.
Voilà, non, mais il est nommé. Après, si son fils suit la route, tant mieux, il ne suit pas la route, bah, tant pis, on passe à un autre. Mais le roi David a eu cette chance que lui, on lui a dit, tu vas être le premier roi d'Israël, Et mais Shaoul avant lui.
Mais Shaoul.
Très bien. Alors, toi, tu vas être le premier d'une lignée. Et après, la royauté ne te quittera plus. Et tout celui qui a essayé de prendre la royauté, par exemple, vous savez, l'histoire des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, on connaît l'histoire des Hashmonaïm. Ils n'étaient pas, de la famille de Yehuda. Les Hashmonaïm, ils ont eu la victoire et ils ont récupéré la royauté d'Israël. À cause du fait qu'ils n'ont pas rendu la royauté à Yehuda, ils sont tous morts. Et vous savez qu'une des choses qu'on a négociées dans la destruction du Second Temple, Rabbi Yochanan a négocié, il a dit, laissez tranquille la famille de Rabban Gamliel. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel, il descendait de David Améler. Et donc de Yehuda. Et donc si on a un descendant de David Améler qui est là, ça veut dire qu'un jour Mashiach pourra venir, puisque le Mashiach descendra de David Améler. Donc c'est clair que David est lié à la royauté. Plus que ça, on ne peut pas. C'est même pas une royauté, c'est une royauté ad vitam aeternam.
Mashiach ben David.
Ok? Donc Moshe est roi. Mais lui, ses enfants n'ont pas hérité. David est roi, et ses enfants ont hérité ad vitam aeternam. C'est-à-dire que Mashiach sera de la famille du roi David. C'est clair. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Mashiach ben David. Mashiach ben David. Hein, voilà, ben David. D'où on sait que Mashiach sera marocain, parce que Mashiach ben David. Alors. Ben David. Tu l'as déjà fait ou pas ça là, hein? Ah désolé David, c'est ton anniversaire, mais pas non.
Pour une fois, hein.
Maintenant, ça c'est donc Moshe Rabbeinu est roi. Le roi David est aussi roi, et pas seulement roi, il ouvre une lignée de rois ad vitam aeternam. Enfin, le Baal Shem Tov, à Baal Shem Tov haya arishon l'inessiye a chassilut aklalit. Le Baal Shem Tov était le premier des chefs et princes de la chassidoute. Alors ça, il faut savoir, les gens ne le savent pas. Mais les maîtres de la chassidoute, on ne les appelle pas seulement dirigeants. On les appelle nassi. Un nassi, c'est un chef et c'est un prince. Ça veut dire qu'un rabbi, et c'est depuis le Baal Shem Tov, ça. C'est-à-dire, tous ceux qui ont suivi le Baal Shem Tov, on leur attribue pratiquement un rôle de roi. Alors, on a ici trois maîtres. Auquel, alors on va voir après, c'est pas exactement la même notion, mais on a toujours le thème de royauté qui tourne autour. Je vous rappelle d'ailleurs que dans cette semaine, dans la Sfirata Omer, on est dans la semaine dans laquelle on compte à chaque fois autour de la malchoute, la royauté, la dignité. Alors là, bon, donc on a, si vous voulez, là déjà référence numéro 1 et 2, on a compris, on n'a pas compris, on n'a rien compris en vérité. On est en train de développer, on a vu que la fête de Shavuot est liée à trois personnes, Moshe, le roi David et le Baal Shem Tov. Et apparemment, les trois sont liés à la
royauté.
On est d'accord, Serge? Ok. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que la royauté? Qu'est-ce que vous pensez de la royauté? Est-ce que d'après vous, la royauté, c'est quelque chose de bien?
À la base, oui.
Écoutez, la royauté, les derniers rois qu'on a connus dans le monde, c'était une catastrophe. Même celui qui n'est pas historien, et tout le monde le sait. Allez, on va prendre l'histoire de France. Jusqu'à quand on a eu des rois en France?
Là, on parle des...
Attends, doucement. On discute. On parle. D'accord? À l'époque des rois en France, on a eu l'ère des rois. À l'époque des rois en France, comment ça se passait?
Guillotine.
Ben, c'était une catastrophe. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait un vrai clivage dans le peuple. T'avais les rois et ceux qui étaient avec eux, qui vivaient dans une richesse extrême. Et de l'autre côté, t'avais des gens qui mouraient de faim.
C'est un peu pareil aujourd'hui. Hein.
C'est un peu pareil, exactement. Oui, mais ça veut dire qu'ils utilisent leur pouvoir pour écraser les autres. Ils utilisent leur pouvoir pour écraser les autres. D'accord? Il suffit de prendre aussi, même, pourquoi je parle, vous pouvez prendre aussi les pays du tiers-monde. Pays du tiers-monde, comment ça se passe? Tu as un dirigeant qui est très 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 riche. Rappelez pas quand le Tunisien il est parti là. Comment il s'appelle?
Bourguiba.
Rappelez pas les lingots, avec ça, c'est ce qu'on a découvert. Combien de lingots il y avait, hein?
50 milliards, il y a
plus. Des milliards? Pas Bourguiba, non. Pas Bourguiba.
Ben Ali.
Et ça, c'est ce qu'ils ont attrapé.
Ah oui, à part ça,
c'est ce qu'ils ont attrapé dans les canapés. C'est ce qu'ils traînaient dans les canapés. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce gars, il s'est enrichi pendant des décennies, alors que de l'autre côté, t'as une population qui mourait de faim. T'as des gens qui mourraient de faim. Donc finalement, il s'est comporté comme un roi.
C'est comme les pays.
Hein? Ah bah oui.
Non, mais il y a les rois.
Exactement. Mais tu vois,
en même temps, il connaît bien le pays.
Les rois africains.
Oui, mais attends, voilà.
Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Au-delà du roi.
Ça veut dire qu'on a ici une notion de royauté qui est mal utilisée. On est d'accord? Royauté qui est mal utilisée. Prenons par exemple les rois d'Israël. Il suffit d'ouvrir la Bible. D'accord? Vous ouvrez la Bible et vous voyez les rois d'Israël. On va commencer par... Shaoul, c'est relativement bien passé. D'accord? Lorsque Kadosh Baruch Hu les Bnei Israël, ils ont demandé à Dieu, ils ont dit, on veut un roi. Au début, Dieu n'était pas content. Dieu dit, bon, vous voulez un roi. C'est moi le roi. Ben oui. Après, Hachem a dit, bon, d'accord, vous voulez un roi, on va vous donner un roi. Très bien. On leur a donné un roi. Ça s'est relativement bien passé avec Shaoul. Après, on voit que le pouvoir lui a un peu monté à la tête, un petit peu. Le roi David, relativement bien passé. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a eu que des guerres. T'as fait avec le roi Salomon, bon, ça, c'était relativement bien. Après, les enfants. Après, on avait un schisme dans le pays d'Israël, vous avez certainement pris l'histoire, entre les rois de Juda, les rois de Judée et les rois d'Israël. On avait des rois qui étaient en général pas religieux, qui avaient un grand pouvoir et qui tuaient des gens par milliers et par dizaines de milliers. C'est dans la Bible, ça. Vous avez lu la Bible ou pas? Donc, on a des gens qui ont mal utilisé leur pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on vit dans un monde dans lequel on a eu l'abolition des rois, en vérité, de l'ère des rois, et qu'on est dans ce qu'on appelle une pseudo-démocratie, je dis pseudo parce qu'en vérité, je ne sais pas si ça a vraiment changé, mais on va dire que ça a un peu changé. On est bien content. Alors, qu'est-ce que vous pensez des rois? Si je vous dis maintenant que lorsque Mashiach va venir, Mashiach sera le roi Mashiach. Vous êtes content ou pas?
Oui, bien sûr.
Non. Moi, j'ai parlé souvent avec des gens qui m'ont dit, écoute, pourquoi roi Mashiach? Pourquoi roi? Bon, enlève le mot roi. Dis-moi une ère messianique. Ouais. Et vous savez, je vais vous dire plus que ça. Il y a un avis dans le Talmud, dans le Maseret Sanhedrin. C'est l'avis de Hillel, qui pense, il dit, Israël devait avoir un roi, Mashiach, qui était Chizkia. Mais comme Chizkia n'a pas mérité d'être Mashiach, donc depuis on a grillé l'option roi. Et lui dit, d'après moi, Mashiach sera pas un roi. Mashiach sera une ère. Ère messianique. Ère messianique, sans roi. Mais le Talmud refute son avis. Et à partir de ça, les commentaires disent que celui qui dit, ben moi je pense qu'il n'y aura pas de roi Mashiach, je pense qu'il y aura juste une ère messianique, d'accord? Eh bien, on l'appelle un renégat. Oui, on l'appelle un renégat parce que c'est un des 13 fondements de foi. Et dans les 13 fondements de foi, c'est de croire en la venue de Mashiach et donc de croire en roi Mashiach. Alors, j'ai envie de dire, mais pourquoi la royauté? Pourquoi la royauté? Pourquoi j'ai besoin de ça? Est-ce que le monde pourrait se passer de royauté?
Oui,
d'accord. D'accord? Pourquoi on parle de royauté? Alors, je vais vous démontrer que non, qu'on a besoin de rois. Et c'est pour ça que, in fine, Hachem a accédé à notre demande. Lorsqu'on a demandé d'avoir un roi, Hachem a accordé notre requête, puisqu'en vérité, on a besoin d'un roi. Le roi, c'est Hachem, certes, c'est vrai, mais pour nous permettre de communiquer avec Hachem, on a besoin d'avoir une personne physique qui nous permet d'imaginer la crainte de Dieu. Je vais bien expliquer ce que je veux dire. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que, d'après l'approche de la Torah, le roi est une personne qui est la plus soumise à Dieu, encore plus soumise que le peuple. Il est extrêmement soumis à Dieu. Et en étant soumis au roi qui lui-même est soumis à Dieu, donc tu te soumets par ricochet à Dieu. C'est ce que dit Maïmonide, c'est ce que dit le commentateur. Seulement le problème, c'est que pas tout le roi qu'on a connu était comme ça. La majorité des rois, c'était surtout un poste de tyran qui utilisait mal leur pouvoir pour écraser les autres. Ok. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, maintenant, on va développer dans la référence numéro 3, je vais vous démontrer que non seulement on a besoin des rois, mais qu'en vérité, si on réfléchit bien, chacun de nous est roi. N'oubliez pas le fil du cours. C'est qu'on va montrer que Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov, tous les trois tournent autour de la royauté. Donc, on va mettre de côté Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov, et on va y développer quel rapport entre la royauté et Shavuot. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura développé ça, on pourra ensuite revenir à la particularité de Moïse, la particularité du roi David et la particularité du Baal Shem Tov. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors on va s'arrêter sur la royauté. Pourquoi la royauté? Quel rapport entre la royauté et le don de la Torah? Alors il explique. Tout d'abord, on a une référence dans la référence numéro 3, Parasha Yitro. Vous savez ce que c'est la Parasha Yitro? Parasha Yitro, c'est la Parasha du don de la Torah. Maintenant, Dieu, il ne nous a pas donné la Torah directement par surprise. Dieu nous a préparé. On est arrivé au pied du mont Sinaï. D'ailleurs, c'était comme l'anniversaire de David, c'était comme Rosh Chodesh Sivan, comme ce soir. Voilà, comme ce soir. On est arrivé au pied du mont Sinaï le soir de Rosh Chodesh Sivan. D'accord? Ce soir-là, Moshe, il n'a rien dit. Il y avait une unité extraordinaire. Bon, voilà. Le lendemain, Dieu parle à Moshe. Et tous les jours, il fait passer des messages. Préparation pour nous préparer.
Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas Tachanina, c'est pour la préparation.
Bien sûr. D'accord? Donc Dieu nous prépare petit à petit. Il nous prépare. Petit à petit, il rajoute des choses, etc. D'abord, il nous dit, préparez-vous, faites-ci, lavez vos vêtements, n'ayez pas de relation avec lui, etc. Et chaque jour, il rajoute. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a annoncé pendant ces jours de préparation? Il a annoncé une phrase qu'on a ici. Dieu a dit, Ve'atem et vous, donc vous, les enfants d'Israël, Tiouli, vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, une dynastie de Kohanim. Nous dit Rashi, ça veut dire quoi une dynastie de Kohanim? Sarim des princes. Ça veut dire que Dieu, avant de nous donner la Torah, il nous a annoncé quelque chose de très intéressant. On ne fait pas attention à ça, mais vous allez voir que ça, c'est très important ce qu'on va dire. Dieu nous a annoncé, il a dit à partir de maintenant, vous allez être des boss. Maintenant, Je sais que tout de suite, quand je vous dis ça, vous imaginez, on va être des boss dans les affaires. D'accord ? Mais c'est pas ça ce que je veux dire, évidemment. C'est pas ce que je veux dire. Pourquoi pas ? Gagner beaucoup d'argent, je vous le souhaite, d'accord ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord ? Dites amen. Amen. Voilà. Mais c'est pas de ça que Dieu voulait parler. En tout cas, c'est pas de ça qu'il voulait parler principalement. Mais il faut faire attention aux mots. Mais Dieu, il a parlé. Dieu, il a dit, je vous annonce la couleur. Dès l'instant où vous allez recevoir la Torah, vous allez devenir une dynastie, Mamlechet, il y a le mot, Meler. Vous allez devenir une dynastie de Kohanim. Donc on apprend qu'on est tous rois et qu'on est tous Kohen. Désolé.
Ah ouais.
Alors, peut-être pas Kohen dans le sens génétique du terme, et on est tous Kohen. Et regardez le commentaire de Rashi, prince.
Attends, que mon monsieur Kohen n'est pas là, pourquoi je ne monte pas
avec Alors,
on est Kohen.
C'est une autre histoire.
Alors justement.
Simon, c'est une autre histoire. Ça.
Lorsqu'on dit qu'on est tous des rois, ça implique deux choses. Lorsqu'on analyse le poste d'un roi dans la Torah, on apprend deux choses, qu'on va voir juste en dessous. Tout d'abord, dans Isaïe, juste en dessous, il est écrit « Meler biyofet rezena enecha ». Le roi dans la Torah est une personne qui est au-delà des autres, au-dessus des autres. Comme il est écrit « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté ». Vous savez par exemple que le roi, quand il sort de chez lui, il n'a pas le droit de sortir en jogging. Il n'a pas le droit de sortir en short pour faire un footing. Bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est les présidents, ils aiment bien. Bon, ça a changé, mais on a connu un président qui aimait bien se donner une image cool, sortir comme
Farco,
ça. D'accord ? En jogging. Ça, c'est contraire à la Torah. La Torah te dit, bon, un président, pour moi, un président, c'est comme un roi. C'est-à-dire, c'est une personne qui a une dignité. La Torah te dit, un roi doit toujours être présentable. Il n'a pas le droit de sortir, c'est pas présentable. Il n'a pas le droit, c'est interdit. D'ailleurs, même par exemple, on est très embêté, par exemple, quand le roi a besoin de se faire coiffer, quand le roi a besoin de couper les cheveux, parce que c'est pas une posture, se couper les cheveux, c'est pas quelque chose qui est honorable. Donc comment on fait ? C'est très compliqué. On dit on doit chercher un serviteur d'un autre roi, etc. Oui. Parce que voir le roi dans une posture qui n'est pas dignitaire, c'est un problème.
Personne ne le voit.
C'est écrit. Le roi, c'est toujours une notion de dignité. Très bien. Deuxièmement. Le roi, ça exprime une deuxième idée, que dit la Gemara Baba Batra. Amar Malka Akar Natouré, si le roi t'ordonne de déraciner une montagne, Akar Touré déracine-la. Bon, alors je veux dire quoi par ici ?
Obéissance sans
condition. Exactement. Ça veut dire que dans le monde goy, roi est égal tyran. Roi est égal je t'écrase, je prends ton fric, je le mets dans ma poche, d'accord ? Tu m'écoutes à la lettre. Jusqu'au dernier souffle.
Macron, quoi.
D'accord. Non, j'ai pas de politique.
Macron, il est petit,
on est en démocratie, ici. Un roi, c'est ça. Un roi, il dit, je prends ton argent, tu travailles pour moi, jusqu'au dernier souffle.
De quoi ?
Faites gaffe, hein, comment il appelle le RG ? Alors, mais ça, c'est l'approche goy qu'on a. Proche goy, tu dis que c'est pour ça d'ailleurs qu'on est bien content que l'ère des tyrans s'est arrêtée, parce qu'on dit bon, maintenant on est tranquille, on est démocratie. C'est quoi la démocratie ? Dans la démocratie, lorsque tu as un président qui est élu, qui a élu le président ?
Le peuple.
C'est le peuple. Donc en vérité, le président est un représentant du peuple, élu par le peuple, déchu par le peuple. Donc c'est le peuple qui dirige finalement. C'est pas bon. On espère.
Oui, on espère.
D'accord. Ok. Maintenant, la Torah. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas les rois. Seulement, la Torah te dit c'est pas ça un roi. Dans l'approche de la Torah, un roi c'est deux choses. Un roi, ça exprime la dignité. Ça y prend beaucoup de hauteur. C'est quelqu'un qui se rabaisse pas. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur. Et c'est quelqu'un aussi que lorsqu'il donne un ordre, cet ordre sera exécuté. Il te donne des forces pour exécuter un ordre, pour faire l'impossible, même l'impossible. Donc on a deux choses. Dignité. Et te donner de l'énergie pour pratiquer l'impossible. Maintenant, on va expliquer comment, depuis qu'on a reçu la Torah, puisque nous sommes tous des rois, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, quand on dit qu'on est tous des rois ? Ben, ça veut dire que nous tous, à partir de la Torah, on a hérité ces deux qualités. La dignité, comme on va développer tout de suite, et être capable de faire l'impossible. On va lire ensemble dans les mots l'écoute et sirot, juste en dessous. Toujours dans la référence numéro 3.
Il y a un siman si on est roi.
Il y a quoi ?
Il y a un siman.
C'est quoi ?
Siman, c'est les tuilines de la tête, c'est le courant des rois. On est le fils de
Dieu. Dieu.
On est le fils de roi.
C'est vrai.
Des rois.
Il a raison. Alors, référence numéro 3. Aliede matan Torah, naasa verom amtanu. Lors du don de la Torah, les enfants d'Israël furent élevés des autres nations. Alors, j'ai pas envie de dire ça pour que ça ait l'air sectaire ou que ça ait l'air etc. Mais vous savez, dans le Ata Vechartanu, on va le chanter bientôt. Ata Vechartanu Mikol Amim Ahavta Otanu Vratitabanu. Je vais le traduire et vous allez voir, vous allez me dire si ce texte vous choque pas. On dit Dieu, tu nous as choisi, sélectionné, comme un entraîneur, hein, l'Avdil. Tu nous as sélectionné parmi toutes les nations. D'accord. Ata Vechartanu parmi toutes les nations. Ahavta Otanu, tu nous as aimé. Vratitabanu et tu as voulu en nous. Tu nous as voulu. Veromamtanu Mikol Aleshonat Razak, voilà, il comprend l'hébreu. Tu nous as élevés. Bah, non, mais non, voilà, il l'a traduit, c'est l'hébreu moderne. Veromamtanu, Mikol Aleshonat, tu nous as élevés de toutes les langues. Ça veut dire quoi?
Langue.
De toutes les langues, de tous les peuples. Ça veut dire que Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, il nous a élevés des autres. Maintenant, attention. Il faut se rappeler toujours ce principe que le Rabbi disait souvent. Que chaque privilège est associé à une responsabilité. Par exemple, j'ai à côté de moi Jackie. Jackie a un privilège, c'est un Kohen. C'est un privilège d'être Kohen.
Ah, oui.
Mais chaque privilège est associé d'une responsabilité.
Ah, oui.
C'est qu'il a la responsabilité de nous bénir. Oui. C'est-à-dire, dans la Torah, il n'y a jamais de cadeau comme ça. C'est pas on dit, bon, ben, t'as été sélectionné au loto, t'es meilleur. Non, non, t'es le meilleur, mais tu feras ça. Donc, Dieu nous dit la chose suivante. Dieu nous dit, au don de la Torah, je vous ai élevé un cran au-dessus des autres. Donc là, on retrouve l'aspect de royauté. Rappelez-vous, c'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui est un cran au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait au don de la Torah? Veromamtanu Mikol Aleshonot. Il nous a élevé au-dessus de tout le monde.
Ouais.
Donc, lorsque finalement les autres vont nous dire, ouais, les juifs, vous êtes différents, vous êtes hautain, peuple, sûr de lui et
dominateur.
Dominateur. Ben, voilà, bon.
C'est pas trompé, hein.
Bien sûr que c'est pas trompé. Il a raison.
La vérité,
hein.
Il a pas dit, il a dit que la vérité.
Exactement.
Mais nous, cette vérité, on voulait la garder pour nous. Ça regarde personne. De quoi était-il tiré la télé?
L'Europe à Jérusalem. D'accord. Bah oui. Donc, alors attendez. Donc, on a, rappelez-vous, la royauté. La royauté, c'est deux choses. La royauté, d'abord, c'est dignité. Dignité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au-dessus de tout. Un juif, il doit savoir qu'il est au-dessus du lot. Il faut prendre la hauteur. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, t'as des voisins, t'as des collègues, t'as des trucs, etc. Bon, tu vis dans un monde dans lequel t'es au même niveau que tout le monde. Mais au fond de toi, tu dois savoir que t'as un cran au-dessus. Pas parce que tu les écrases. Parce que de toi, on attend beaucoup plus. Toi, t'es un acteur principal. Toi, t'es un acteur principal. C'est moi, c'est autre chose. Maintenant, deuxième chose. Ve'af le mala me'olam bichlal, le vilti eyot netunim tachat memshelet gidrat teva. Ça veut dire que depuis le don de la Torah, Dieu nous a élevés de la nature, dans le sens que, on est, à partir de maintenant, on n'est plus sous la domination des règles de la nature. Et ça, on peut le voir de façon très simple. D'accord? On peut le voir de façon très simple. Regardez. Si on suivait les règles de la nature, est-ce que vous avez une possibilité d'expliquer comment un peuple opprimé depuis 3300 ans
encore
est encore là? Est-ce que naturellement c'est explicable?
Non.
Inexplicable. Inexplicable. Parce que non, c'est pas de la chance. C'est pas possible. C'est inexplicable parce qu'il y a eu d'autres peuples qui étaient beaucoup plus forts que nous, etc. Et ils sont pas là. Ils sont pas là. Non, c'est rien à voir.
On a eu des clés qu'ils n'avaient pas. D'accord. Et que les autres n'avaient pas.
Donc pourquoi? Comment c'est qu'on est encore là? On est encore là. On est encore là parce que Hachem, s'il n'y avait pas eu le don de la Torah, Dieu préserve, on aurait péri comme les autres. On aurait tenu un certain temps, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles, après on périt comme les autres.
Exactement.
Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peuple que vous pouvez dire ce peuple c'est le même qu'il y a 3000 ans? Aucun. Cherchez dans le monde, il n'y a aucun peuple.
Hein?
Aucun peuple que vous trouvez ce peuple qu'il y a aujourd'hui c'est le même qu'il y a 3000 ans. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Le seul peuple qui a tenu 3000 ans alors qu'il était opprimé, c'est l'homme Israël. Comment c'est possible? Parce qu'au don de la Torah, hein, Akadosh Baruch Hu nous a élevé du lot et quelque part il nous a rendu surnaturel. Même si concrètement, dans la vie de tous les jours, on est confronté.
Mmh.
On est confronté et on est sous la domination des règles de la nature. Mais en vérité, au fond, on n'est pas limité. La preuve, c'est qu'on est encore là. Donc ça, c'est la première chose. Un juif, il doit savoir que, rappelez-vous, deux aspects d'un roi. Un roi, la dignité. Un juif est quelqu'un qui a la dignité qui est au-dessus du lot. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est comparé souvent à l'huile. Pourquoi on est comparé à l'huile? Tu prends un verre d'eau, tu mets de l'huile. Même si tu mets de l'huile d'abord, l'huile remontera toujours à la surface. Il n'y a rien à faire. Même si tu prends un juif, il a beau essayer de s'assimiler, de se mélanger, etc. Il remonte. Il n'y a rien à faire.
Il
n'y a pas moyen. Il remontera à la surface. Et si ce n'est pas lui qui remontera à la surface, c'est l'eau qui le renverra.
C'est la génération d'après qui remonte.
Voilà, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est l'eau qui le renverra. Il dit, t'as rien à faire. Toi, t'es juif, tu sors.
D'accord.
Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, une fois, il y a, Enfin, il y a un juif comme ça émancipé qui est parti voir le rabbi Rachab et qui lui a dit ouais, il est habillé comme un Allemand, tu vois. Habillé comme un Allemand. Et le rabbi Rachab voulait un peu le taquiner pour lui montrer que bon, un juif, ça reste un juif. Il lui dit dis-moi, quand tu sors dans la rue, tu penses à gens, ils remarquent que t'es juif? Alors il dit non, je pense pas, moi je marche en Allemand, etc. Quand je suis à la synagogue, je suis à la synagogue, quand je suis dehors. C'est, leur slogan c'était soit juif à la maison et un homme dehors. Du style dehors, aucun signe distinctif, aucun signe ostentatoire. D'accord. Et donc il dit ça au Rabbi Rachab. Il dit à Rabbi Rachab, il dit non, moi dehors, j'ai l'air d'un goy. Alors le Rabbi Rachab, il dit moi j'ai une question à te poser. T'es circoncis? Il dit bien sûr, Rabbi, bien sûr je suis circoncis. Il dit, et c'est quoi la circoncision? Ben, il dit, la circoncision, c'est que le moël, il enlève le prépuce, il enlève une peau.
Il le met où?
Et il dit, il fait quoi avec cette peau? Il la met où? Alors, je dis, je sais pas, moi, il la jette, ben, on l'enterre, évidemment. Ah. D'accord? Il dit, il l'a mis où d'après toi, ton prépuce? Alors, l'autre, il dit, je sais pas, ben, il lui dit, ben, d'après toi, il l'a mis où? Je sais pas, ben, il l'a mis sur ton nez. Bon, je rentre pas dans les idées de nez crochu, etc. Mais, ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message?
Que ça se voit.
T'as beau vouloir te cacher comme tu veux.
De toute façon, c'est, faut pas.
De toute façon, un jour, quelqu'un te le rappellera.
Bien sûr.
Ils sont partis chercher les registres. Ils ont dit ton arrière-grand-père, il était juif, on a des preuves. Et le gars, il dit, mais laissez-moi tranquille, je suis assimilé. Je suis goy. Ah, t'es pas goy, t'es juif. Tiens, viens avec les autres. L'autre, il est là avec son costard, il dit, mais qu'est-ce que je fais là, dans le train? T'es juif. Comment c'est possible? Parce qu'un juif, il doit savoir qu'il a ce premier aspect de la royauté. Un juif est toujours au-dessus du lot. Ça, c'est le premier aspect. Soir.
Bon, Rabba.
Deuxième aspect, deuxième aspect de la royauté, c'est qu'un roi, on a dit, lorsque le roi dit, il faut déraciner la montagne, on déracinera la montagne. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pour un roi, le mot impossible n'existe pas. Il n'est pas impossible. D'ailleurs, vous savez, c'est l'image aujourd'hui. On dit par exemple aujourd'hui, quand on veut par exemple tracer une ligne de train, et que quand on veut tracer la ligne de train pour aller d'une ville à une autre, on voit il y a des maisons, des fois il y a des maisons, des fois il y a des collines, des fois il y a des vallées, etc. Qu'est-ce qu'on fait?
On rase.
Parce que le roi, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque le roi a dit on doit passer, on passe. Et s'il y a une montagne, il n'y aura pas de montagne. C'est tout. C'est montagne. Montagne, c'est un rocher. Mais pas de problème. On casse la montagne. On prend le temps qu'il faut. Parce que, pour le roi, non n'est pas une option. Alors, de la même façon. Et là, on a un enseignement. Il dit, que chez Balifne Yehudi, Inyan Shel Torah Mitzvot. Donc, je suis dans la référence numéro 3. Lorsqu'un juif, lorsqu'il s'agit de Torah et Mitzvot, Allah Vinok Kemelech, un juif de se comporter comme un roi. Ça veut dire quoi? Très fort comme enseignement. Lorsque tu te lances dans une mitzvah, tu te comportes comme un boss. C'est quoi un boss? C'est un roi, il a des comptes à rendre à personne. Vous savez, quand vous prenez une société, toujours des comptes à rendre. Tu vois, il y a toujours des comptes à rendre. Tu prends par exemple l'employé de bas niveau, il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre un peu plus haut, etc. À la fin, ça arrive jusqu'au boss. Et le boss, il a des comptes à rendre à qui? Au comité directoire, aux actionnaires, etc. Il y a toujours quelqu'un qui a rendre des comptes. Mais, quand tu. Mais à un moment, quand tu arrives au big boss, tu sais, le big boss, c'est celui qui vient en jean comme ça. Tout le monde a bien un costume, lui il a bien un jean. C'est lui le big boy, il vient en short. Pas de colle, lui, il vient en... c'est lui le big boss. Le big boss, il a des comptes à rendre à personne. Le big boss, il dit, il va à droite, tout le monde va à droite, je sais pas pourquoi. Il a marché là-bas, on va là-bas, on sait pas, il part aux toilettes. Il dit, ah bon, on attend alors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce qu'on voit d'ici, c'est qu'un roi, il a des comptes à rendre à personne. Un roi, il est au-dessus de tout le monde. Alors, de la même façon. Lorsque un sujet de Torah et de mitzvot se présente devant un juif doit se comporter comme un roi. Ça veut dire quoi? Comme si qu'il n'avait aucun souci. Comme si qu'il n'avait rien. Beinyanim shel Torah ou mitzvot, Yehudi ou Baal HaBayit Melech Al HaTeva. Tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot, ce qui concerne la Parnassa, t'es pas un roi. Ce qui concerne la Parnassa, t'as des comptes à rendre. T'es tributaire d'un système, t'es sous la domination des règles de la nature, d'accord? T'as des règles, etc. Bon, il y a des règles, on gagne pas de l'argent comme ça, il y a des règles. Mais dès qu'il s'agit de Torah Mitzvot, pourquoi Hachem nous a déclaré qu'on est des rois? Parce que dès qu'il s'agit de Torah Mitzvot, tu dois savoir que t'es un boss. C'est-à-dire comme ça. Par exemple, quelqu'un il cherche un travail, il n'a pas de travail. On lui propose un travail dans lequel on te dit un super travail, un super poste, mais pour ce poste, il faut rentrer, il faut, même vendredi, il faut terminer à 18h. Voilà. Il n'y a pas au lait. Il y a hiver, pas hiver, il faut terminer à 18h. C'est très difficile, c'est un challenge. Alors ce juif, il se trouve devant un dilemme, il ne sait pas quoi faire. Parce que d'un côté, il voit bien que c'est un poste important, qu'il n'y a pas de parlance, c'est la crise, il n'y a rien. Alors comment il fait? C'est là qu'il doit se remplacer ce qu'on vient de dire. Que sur tout ce qui concerne la vie de tous les jours, bon, là t'es pas un boss, là tu agis, et t'es tributaire de la nature, donc tu dois t'insérer, tu dois t'introduire, tu dois t'intégrer. Mais dès qu'il s'agit de Torah et Mitzvot, c'est toi le boss. C'est-à-dire que toi, comment tu fais? Ça veut dire que toi, avec ton Shabbat, quand toi dans ta tête t'as décidé que tu fais Shabbat, en vérité dans ta tête, tu deviens le big boss.
Non mais dans le cas que tu viens de dire.
Bah je te donne un exemple.
Le
tu sais,
le pauvre garçon.
T'inquiète pas, Hachem il s'occupe de tout le monde, il va s'occuper de lui aussi. Il y avait une vidéo qui a tourné. Il y avait une vidéo qui a tourné, ça fait quelques mois, dans laquelle t'avais Bill Gates qui parlait. T'as parlé de Bill Gates. Ah. Et Bill Gates il a dit je peux tout acheter sauf le Shabbat d'un juif.
Exactement.
Vous connaissez l'histoire?
Oui.
Il a dit le Shabbat d'un juif. Enfin, c'est ce qu'on va dire en anglais
ouais,
en tout cas.
Il a dit, ouais.
Pourquoi? Parce qu'il avait il y a un juif sud-africain. Qui est un maître de conférence très très connu, de très très haut niveau, qui a fait Tshuva. Et Bill Gates, chaque année Microsoft, ils font une grosse conférence. Et ils invitent à chaque fois un invité. Maintenant, ils sont tellement, ils ont des moyens que très souvent, ils annoncent l'invité avant même de lui avoir prévenu l'invité. Parce que, tu comprends, l'invité, quand on lui dit c'est Microsoft qui t'invite, et c'est un gros chèque.
Bien,
je veux dire à 5 ou 6 chiffres, d'accord? Donc, ils discutent pas, le gars il vient, il n'y a pas de question, Bichlal. Donc, c'est juste, on lui annonce la date où il doit venir. Et donc, ils ont fait les publications et tout, etc. Et il lui annonce ce monsieur. Et il lui dit, tu dois venir à la conférence de Microsoft. Il dit avec plaisir, il regarde la date, c'est un Shabbat. Il dit, désolé, je ne pourrai pas venir. Maintenant, c'est Bill Gates qui raconte ça. Donc, Bill Gates, il appelle. Enfin, d'abord, c'est pas lui qui appelle. Il fait appeler. Il appelle pas au début, par secrétaire. Il dit, bon, combien il veut?
Vous voulez.
Combien il veut? Alors, tu comprends, tout ce monnaie, c'est comme ça, comme ça qu'il pensait, d'accord? Donc il augmente, et il double, et il triple. Et l'autre, il voit, il dit non. Il vous dira non. D'accord?
Il dit non.
Alors, à la fin, il dit bon, Bill Gates, en personne, l'appelle.
En personne,
il appelle. Il dit bon, je te donne un chèque, tu mets ce que tu veux dessus. C'est bon? Ça te va?
Il dit non.
L'autre, il lui dit non. Il vous dira non.
Mais
il dit non toujours. Je comprends pas, t'es fou, quoi.
J'ai jamais rencontré un type comme ça.
Je comprends pas. C'est un grand niveau. C'est pas un niveau, c'est un grand niveau. D'accord?
Il y en a.
D'accord? Alors, attendez. Il dit non. Et Bill Gates, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu veux pas? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit non, c'est mon Shabbat. Et mon Shabbat, je suis avec ma famille, etc. Il me dit, mais attends, avec un chèque que je te donne, tu peux faire 1000 Shabbats.
Ah ouais,
d'accord? Tu fais 1000 Shabbats et dimanche. Ouais, toute la semaine, tu vas avec. Tu fais 10 ans avec ça, 15 ans, 20 ans. Il lui dit non.
Mais il a dû négocier avec le bon Dieu.
Il lui dit, je profanerai pas un seul Shabbat. Et là, Bill Gates, il était dans son jet privé avec, il y avait tout un comité directoire et c'est un de ce comité qui a raconté. Il a dit, Bill Gates a dit, je peux tout acheter. C'est quelqu'un qui achète tout.
Ah oui, la télé.
Vous savez, c'est quelqu'un, Bill Gates, par exemple, c'est quelqu'un, il supporte pas le bruit. Des gens comme ça, ils supportent pas le bruit.
Le bruit, il aime pas le bruit.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une maison là-bas, en Californie. Maintenant, comme il supporte pas le bruit, donc il a acheté toutes les maisons autour.
Ah, carrément.
2 kilomètres, c'est véridique. 2 kilomètres à la ronde. Il y a personne dans les maisons. Juste comme ça, il a pas de bruit. Et il a mis autour des frontières, des barrières. Juste, voilà, stamp. C'est-à-dire, une personne comme ça, il n'y a pas non. Non, c'est pas. Il n'y a rien qui l'arrête.
Il n'y a rien qui l'arrête.
Et là, il a entendu cette idée. L'autre, il lui a dit, je ne pourrai pas. Et bien, finalement, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a dû changer le jour.
Ils ont décalé la date.
Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils avaient besoin, c'était le sujet.
Il l'a impressionné quelque part.
Ah, bah ouais.
Ah, oui. Il a été impressionné.
Alors, là, vous voyez, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple.
Il faut qu'il vienne.
C'était plus lui le roi, Bill Gates, là.
Bah oui.
C'était l'autre qui était devenu le roi. Ouais. Le roi du monde, c'était l'autre.
Vous savez, les hommes d'affaires de cette envergure, c'est comme Trump, etc. Mais... C'est des gens pour qui non n'est pas une option. Ah, c'est-à-dire que Trump, lorsqu'il a fait sa campagne, il a décidé, je serai président des États-Unis. Il n'y a pas non.
Elle est méprise.
Non, c'est pas une option. Alors ça, c'est des gens qui sont dans le monde de la vie de tous les jours, et pourtant on a vu qu'un simple juif qui fait la Torah et les mitzvot, il peut être plus fort que ça. Il peut être plus fort que tout l'argent de Bill Gates. Alors là, ça c'est une illustration parfaite pour expliquer l'idée qu'on vient de dire ici. Quelle idée on vient de dire ici ? On vient de dire ici une idée très forte, que lorsqu'un juif fait une mitzvah, pour tout ce qui concerne la mitzvah, un juif il doit savoir qu'il est Baal Abayit, il est patron sur le monde, sur la nature. Tout ce qui concerne le travail, bon, c'est le travail. Mais tout ce qui concerne une mitzvah, tu es le patron, tu es le roi du monde. Et c'est ça les deux choses. Rappelez-vous, on a dit que dès l'instant où Hachem a donné la Torah, Hachem a dit, vous serez tous, chacun de nous, chacun. Même le plus petit des juifs, il n'y a pas de petit juif. Même celui qui se considère le plus petit juif, il sera un roi. C'est vrai, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire qu'il est au-dessus du lot, comme un roi. Un roi, il est au-dessus du lot. Et deuxièmement, dignité au-dessus du lot. Et deuxièmement, ça veut dire quoi être roi ? Être roi, ça veut dire qu'un juif, non, n'est pas une option. Le roi a dit, on déracinera la montagne. C'est tout. Et en plus, la force d'un roi, c'est qu'un roi, et ça c'est ce qui explique ici, c'est qu'un roi, il n'a même pas besoin de se battre. Tu comprends ? Quand, ça veut dire comme ça, je vais lire dans les mots d'abord. « Ou matzler bekar lo bederech milchama et la bederech menucha » C'est la fin de la référence numéro 3. Il y a deux façons de gagner des challenges. Première façon, c'est que tu te bats. Tu te bats, t'étais plus fort que l'autre, tu l'as écrasé. Mais un roi, il se bat même pas.
Pas la peine de faire la guerre.
Il se bat même pas. D'emblée, il est en haut, il dit, tu feras ça. Tu feras ça, et la chose sera faite, c'est tout. Que la chose soit faite, et la chose fut faite. Il n'y a pas de, il n'y a même pas de dispute. Tu discutes même pas avec un roi. C'est pas tu, non, mais je pense que, tu discutes pas avec un roi. De la même façon, il faut savoir que depuis qu'Hachem nous a donné la Torah, un juif, dès l'instant où il décide de faire la Torah et les mitzvot, il la fera. Il peut être plus fort que le monde entier. Et c'est ce qui explique pourquoi des juifs qui sont arrivés aux États-Unis, à Tunis, en Allemagne, en France, peu importe dans tous les pays, partout, un juif qui voulait respecter son Shabbat, il l'a fait. Pourtant, il y a des codes. Le Shabbat n'était pas partout. Hein. Il y a des endroits où on travaille 7 jours sur 7. Un juif dit, je travaille en pas Shabbat, je travaille en pas Shabbat. Je discute pas. Tu m'envoies en Sibérie pour ça, envoie-moi en Sibérie. Pas de problème. Je viens en Sibérie. Non, mais voilà. Ça veut dire que.
Ça a l'air facile. Mais...
Non, c'est pas que ça a l'air facile. C'est pas que ça a l'air facile. C'est que ça les rend fous. Il dit, mais quoi? Finalement, quel moyen j'ai pour le faire tomber? J'ai aucun moyen. Je peux pas discuter avec quelqu'un comme ça.
Aucun moyen.
Tu peux pas discuter. Il dit, écoute, moi, je fais Shabbat. Tu veux m'emprisonner? Emprisonne-moi. Bon. Je t'en parle l'autre jour, mais tu veux m'emprisonner. Bah, c'est ton choix. Moi, je ferai mon Shabbat. Moi, je mettrai mes tefillines. Moi, je respecterai l'éducation juive. Moi, je respecterai la Torah, les mitzvot, les fêtes, etc. Ça veut dire, c'est là qu'on voit cette notion de royauté. Et je vais vous dire, si on n'avait pas en nous cette fierté, cette dignité, jamais on n'aurait tenu jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça les a rendus fous. Tout à l'heure, je vous citais l'autre de Gaulle. C'est de Gaulle qui a dit ça. Peuple sûr de lui et dominateur. Pourquoi ça l'a rendu fou? Qu'est-ce qui l'a rendu fou à de Gaulle? De Gaulle, croyez, moi je suis la grande France, oh, douce France, d'accord? C'est la grande France, moi. Et moi, je dis qu'il y a un embargo. Donc, on aura à faire un bras de fer, il y a un embargo. Hein, qu'est-ce qu'ils viennent, eux? Ils te viennent en pleine nuit, ils te prennent les vedettes, ils partent.
Ils se sont servis.
Ça l'a rendu fou, ils n'ont jamais vu ça.
C'est pas pour ça qu'ils les a.
Mais c'était à eux.
Oui, pas seulement ça.
C'est pas pour ça, c'est parce qu'ils ont déclaré la guerre.
Oui.
Aux Arabes sans son autorisation.
Exactement. Oui, dis quoi, moi? Moi? On va pas prévenu? C'est pas possible.
Combien?
Moi, je suis en train de construire c'est pas lui, mais c'est un autre. Je suis en train de construire une centrale nucléaire en Irak. L'Israël, il y avait les attaques. Tu m'as pas demandé. Tu m'as demandé mon avis? Ce que je pense? Ce que je pense pas? Non, t'as rien demandé. Ça, c'est un juif, il dit, moi, dès que, je suis un roi. Meller. Un roi, y a pas de nom. Moi, je fais ce que je dois faire. Tu m'embêtes, c'est toi qui prends.
Exactement.
C'est tout. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je veux vivre en paix, moi. Et tu m'embêtes, je prends sur la tête. C'est comme ça. Donc, ça, c'est Meller. Vous voyez comment ce petit mot que Dieu a dit, c'est en fait le secret de notre survie. Si Dieu nous avait pas appelé Meller, on serait tombé comme tout le monde. T'es pas Meller, t'es pas roi, tu t'écrases. Chacun de nous est Meller. Donc tu vois David, quand on dit que David a Meller, c'est ton anniversaire, hein? Et qui alors? Lorsqu'on dit qu'on est Meller, on est tous Meller, c'est-à-dire comme Meller. Meller, ça veut dire qu'on a la dignité, d'accord? Ça veut dire qu'on a la dignité, et Meller, ça veut dire aussi qu'on est au-dessus de tout et qu'on a la possibilité de combattre n'importe quel challenge. Dès qu'il s'agit d'accomplir la Torah et les mitzvot, il n'y a rien qui est plus fort que toi. Rien. Ni l'argent, ni le pouvoir. Rien ne peut t'écraser. Tout dépend de toi. Si toi, tu veux faire ta Torah et tes mitzvot, rien ne sera plus fort que toi. Ok. Maintenant, concrètement, vous comprenez que tout à l'heure, je crois que c'est Michael qui a posé la question, il a dit, en théorie, tout ça c'est bien beau, je crois que c'est pas qui a posé la question. Enfin, je la formule différemment. En théorie, c'est bien beau tout ça. Le roi, big boss, big boss, big boss, je veux bien. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on fait pour amener cette royauté? Dans la vie de tous les jours, on est confronté à des challenges. Alors, je fais quoi maintenant? Je vais arriver demain, je dis, bon, je sors dehors dans la rue, dans le, je sors du cours de Tania tout à l'heure, avec l'euphorie, ouais, je big boss, big boss. On m'a dit, là, tu sors, sale juif. Et bon, big boss est oblique, t'es big boss. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de big boss? Comment ça marche? Alors, c'est pour ça, comme Hachem, il sait que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué de se sentir un mêler. Mais d'ailleurs, même, c'est que même en hébreu, ben, voilà, Shimon, il est à côté, il va nous confirmer. En hébreu, quand on veut dire à quelqu'un que c'est un, on dit, t'as mêler. Mêler, c'est un boss. T'es un boss. Comment, c'est l'équivalent en français, t'es un boss. T'es un patron. En français, on dit un patron.
C'est lui. Il dit, malichma.
Hein? Mêler, un roi. C'est-à-dire, un roi, il arrive, il y a pas de feu rouge. Il y a pas feu rouge. Ça n'existe pas. J'avance. Mais celui qui est là, ben, on va lui marcher dessus, c'est tout. Laisse-moi passer. Bon, alors, vous comprenez que cette approche nous coûte cher aussi, des fois. Parce que réfléchir comme. Mais voilà. Les qualités, ça comporte des qualités et des défauts. Je disais que concrètement, dans la vie de tous les jours, vivre comme ça, c'est difficile. Qu'est-ce qui garantit que je vais réussir à développer cette dignité, cette royauté, cette endurance, d'être capable de n'importe quelle situation, passer. Le roi a dit, la montagne sera déracinée, pas de problème. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem, il a mis dans chaque génération des chefs, des tzadikim. Des tzadikim qui, eux, nous aident à réveiller le côté roi qui est en nous. Pourquoi? Puisque la Gemara nous dit, man malche rabanan. Qui sont les rois? Ce sont les sages. C'est-à-dire que les sages, les chachamim, ont en eux cette qualité de royauté. Et qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il sait qu'on a du mal à se sentir royauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne cette qualité, mais de façon très très forte aux chachamim. Quand tu vas voir un Talmid Chacham, un Tzadik, tu sens que le Tzadik, il est au-dessus. Et ça t'inspire, ça. Ça t'inspire, il t'aide à toi aussi à être au-dessus de tout. Hachem, pour nous aider à être au-dessus de tout, il nous donne des Tzadikim qui, eux aussi, sont au-dessus de tout. C'est-à-dire que le Tzadik, en vérité, le Tzadik n'est pas en train de te rajouter quelque chose. Il est en train de t'aider à développer des capacités que tu as en toi. Les gens vont voir le Rabbi, les gens vont voir un Tzadik. Et il y a le Tzadik qui m'a donné une bracha. Comment, qu'est-ce qu'il fait le Tzadik, d'après toi? Qu'est-ce qu'il fait? Il te passe la main dessus, il te fait sortir des trucs. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Comment il fait? Comment il fait? Il y avait pas, il y a plus. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Comment ça marche? C'est très simple. Le tzaddik, et des fois tu vas voir le tzaddik, c'est désolé, je peux rien faire pour toi. Quoi tu fais pour moi? Fais, pourquoi tu peux rien faire? Ma tête te revient pas, pourquoi tu peux rien faire pour moi? Parce qu'en fait, un tzaddik, il peut pas développer quelque chose que tu n'as pas. Jamais. Un tzaddik ne peut que faire descendre et développer quelque chose que tu as déjà en toi. Beracha en hébreu, c'est faire descendre, développer. C'est pour ça, si le tzaddik évoque un potentiel en toi, en vérité, t'es un boss. T'es un boss. Mais tu veux pas être comporté comme un boss. Alors, le tzaddik, il vient, il dit, bon, viens, je vais t'expliquer, on va faire un coaching et on va te montrer que t'es un boss. C'est tout. Mais si, dès le départ, t'as une qualité que t'as pas en toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tzaddik? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, tzaddik?
Non, moi, je suis pas d'accord.
Le tzaddik, il peut rien faire. Si je peux rien faire pour toi.
T'es un boss, j'ai dit non.
Tu veux pas développer cette qualité, je peux rien faire pour toi. Moi, je peux t'aider à développer une qualité. Donc, résumons. Parce qu'après, il faut qu'on revienne, n'oublions pas. On n'aura pas le temps de finir tout le cours, hein. Je vous dis la vérité. Ce cours, on aurait pu le faire au moins en 2 heures. Parce que vraiment, j'ai réduit. Parce qu'il y a beaucoup à faire dessus. Mais je vais essayer de développer au moins le fil conducteur. Donc, reprenons. Shavuot est lié à 3 fêtes. À 3 maîtres. Moïse, le roi David, le Baal Shem Tov. Le point commun entre ces 3 maîtres, c'est quoi? C'est que ces 3 maîtres sont appelés des rois. Des princes, des rois. On a développé, on a expliqué que quel rapport entre la royauté et Israël, pourquoi on parle de roi? Parce qu'un roi, il a 2 qualités. Premièrement, le roi a la dignité qui lui permet de s'élever. Et deuxièmement, le roi, non, n'est pas une option. Hachem a déclaré que nous tous sommes des rois. Nous tous. Alors pourquoi on a besoin de Tzadikim dans ce cas-là? Pourquoi on a besoin de Moïse, David et le Baal Shem Tov? Parce que Hachem, comme il sait qu'on a du mal concrètement dans la vie de tous les jours à le faire, c'est pour ça qu'Hachem, dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans la génération des tzadikim qui, eux, nous aident à développer la royauté qui est en nous. Ok. Maintenant, si vous voulez, on va essayer d'expliquer, on va essayer de ramener ça dans la vie de tous les jours et d'expliquer comment Moïse, le roi David et le Baal Shem Tov correspondent à 3 grandes phases qu'il y a eu dans le peuple juif. C'est pas compliqué. Alors, on va prendre le premier. Tout d'abord, je vais vous montrer que Moïse, le roi David et Baal Shem Tov, et je vais raconter quelques histoires, les trois avaient une particularité, c'est qu'ils avaient une vie pleine de miracles. Pleine de miracles partout. Je vais vous donner des exemples. D'accord? Alors, on va commencer par le roi David. On va commencer par Moïse. Pourquoi je commence par le roi David? On va commencer par Moïse. J'ai ici un texte de la Guémara, hein, qui nous raconte le miracle. D'accord, le miracle qu'a fait le... Alors, excusez-moi. Ma page, là. C'est ça. Voilà. Alors, Moïse, toute sa vie était pleine de miracles. Vous savez que Moïse était très riche. Vous savez ça ou pas?
Il est très quoi?
Très riche. Extrêmement riche, c'est écrit dans la Guémara. Hein?
Oui.
On dit comme ça, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il lui a donné les premières tables de la loi, alors il lui a dit, non, attendez, il lui a dit, première table de la loi, bon, les tables de la loi, on dit qu'elles sont tombées. Elles sont tombées, ou il les a fait tomber, en tout cas, il y avait des débris. Où sont passés les débris? C'était du saphir.
Quoi?
Saphir. C'est que c'est un morceau comme ça, un bloc comme ça de saphir? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça vaut des milliards. Peu de prix. J'ai vu les démochés, pour la maison, pour boire. D'accord? Bon. Ensuite, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit, bon, je vais donner une autre pierre maintenant. Ça, c'est toi qui vas la tailler. Alors Moshe dit, je fais quoi avec les morceaux que j'ai taillés? Il dit, bon, c'est pour toi, c'est... Et la Gemara, elle dit clairement, dans le traité Nedarim, elle dit que Moïse, il est devenu très riche. Il était très riche, extrêmement riche. C'est pour ça d'ailleurs que personne n'avait une emprise sur lui, parce que tu ne pouvais pas appuyer avec l'argent. Il a besoin de personne, Moïse. Il avait tout l'argent, qu'il a besoin. Les miracles, il n'y a pas besoin de préciser. Les miracles, on sait tous les miracles qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait des miracles en voiture, en veux-tu, en voilà. D'accord? En veux-tu, en voici, en voilà. Ça, c'est pour Moïse. Maintenant, prenons le roi David. Le roi David était aussi très riche. D'où on sait qu'il est très riche? Les gens ne le savent pas. Vous savez que le roi David était l'instigateur du projet du Beth Amikdash. Maintenant, pour construire un Beth Amikdash avec de l'or partout, c'est des... Je veux dire, c'est des tonnes d'or. C'est énorme. Des murs entiers recouverts d'or. Des murs avec une épaisseur, etc. C'est des tonnes d'or. Qui a payé tout ça? Les Juifs étaient pauvres à cette époque-là. Qui a payé tout ça? Et le roi David raconte. Il raconte ce qu'il a payé de ce propre denier. Donc il raconte comment... Alors là, je vous compte là. Donc un kikar d'or, c'est 29 kilos. 29 kilos d'or, donc 3000, comptez 3000 fois 29 kilos d'or, ça fait combien? Juste l'or, ça. Hein. 3000 fois 29.
27 000.
Voilà, juste gentil, ça c'est juste l'or, d'accord? Ensuite, l'argent, le métal, l'argent. Donc un kikar toujours, 29 kilos. Et ça, vous me comptez 7000 fois 29. J'ai pas fini, attendez, j'ai juste commencé. Ça, c'était juste pour recouvrir les murs.
Je peux avoir l'héritage, mon sujet.
Ça, c'était juste, il raconte. Il dit, ça, c'est juste que ça m'a coûté pour recouvrir les murs de mes propres deniers. C'est tout.
Mais
vous le trouvez si vous voulez la référence. Vous voulez la référence du coffre. Vous voulez le descriptif. Vous prenez les chroniques, tome 1, chapitre 29. Et là-bas, vous pouvez voir tout, il te raconte. Il dit, voilà. Donc, juste pour couvrir les murs, il m'a fallu 3000 kikars, donc 3000 fois 29 d'or, et 7000 kikars d'argent, etc. Juste pour les murs.
Ce qu'on veut savoir, c'est où vous avez tout ça. Oui, d'ailleurs,
c'est quoi avoir
une histoire? Des
affaires.
Des
grosses affaires. Ça veut dire que le roi David était extrêmement riche. D'accord? Le roi David était extrêmement riche. Et on dit aussi, à Botaï, on dit aussi que le roi David, d'accord? Il avait pareil, plein de miracles. Des miracles en voiture, voilà. Donc ça veut dire qu'on voit encore une fois comment Moshe et le roi David, Moshe, et le roi David étaient des gens qui avaient une vie pleine de miracles, très riches, d'accord? Une vie hors du commun. Maintenant, si on parle du Baal Shem Tov, ça c'est clair, on est d'accord? Si on parle du Baal Shem Tov, ben le Baal Shem Tov, il est connu pour ses miracles, au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on sait, moi je vois aux enfants, dès que je vais vous raconter une histoire du Baal Shem Tov, ils disent, ah! Tout de suite, il sort Baal Shem Tov, on sait que ça va. On sait qu'il y aura de l'action, tu vois, il y aura des anges, il y aura des trucs. Il y aura un truc. Pourquoi?
Il était très riche aussi.
Bien sûr. D'accord. Je vous donne. Non, Baal Shem Tov aussi a brassé beaucoup. Mais je vais vous raconter une histoire. Une histoire du Baal Shem Tov. Pour vous montrer à quel point le Baal Shem Tov, il brassait les miracles. Les miracles. Une fois, le Baal Shem Tov, il était dans sa ville, Meziboz. Et il y avait dans sa ville des opposants à lui. Et donc, le Baal Shem Tov est assis dans sa souka. Et tout d'un coup, dans sa souka, ça c'est une histoire que Rav Azéon nous a raconté plusieurs fois. Alors, il a bien raconté plusieurs fois cette histoire. Le Baal Shem Tov était assis dans sa souka. Et il y a des rabbanim qui rentrent le voir, des rabbanim qui sont des opposants à lui. Et qui lui disent bonjour, d'accord? Ils regardent la souka.
Bonjour.
Ils voient comment la souka est construite. Et ils disent au Baal Shem Tov, votre souka n'est pas cachère. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit, je vais vous prouver avec la halakha que ma souka est cachère. Et comme ça, ils discutent, ils ne sont pas acceptés. Et à la fin, les grands de la ville qui étaient là, ils ont dit, non, monsieur, votre soukane n'est pas cachère. Et là, le Baal Shem Tov, regardez ce qu'il fait. Baal Shem Tov, il pose sa main, enfin, il pose sa tête sur sa main, et quelques secondes plus tard, il lève sa tête et il ouvre sa main. Et là, dans la main, on voit un papier. Du Baal Shem Tov. D'où il sort ce papier? Ben, j'ai dit, c'est un papier que je recevrai du ciel si vous voulez regarder ce qui est écrit. Alors, ils se coupent des fous. Parce qu'ils étaient tous à côté. Ils s'appelaient ça en 3 secondes. Okay. Baal Shem Tov, il était là, etc. Il n'y avait rien dans sa main, c'est pas un magicien, d'accord, c'est rien du tout. Il était là, il dit, ben, j'ai un papier que je recevrai du ciel. Alors, le Baal Shem Tov leur donne le papier. Et il leur dit, voilà, c'est un papier qui est écrit du ciel. Et sur ce papier, c'est écrit, cette souka de Rabbi Israël Baal Shem Tov est cachère. Et qui signe ce papier? L'ange Matat, ministère de l'Intérieur d'en haut. Alors lorsqu'ils ont vu ça, ils ont compris qu'il ne faut pas commencer avec le Baal Shem Tov. Bon, alors, la suite de l'histoire pour vous dire, c'est que ce papier, il a gardé le Baal Shem Tov. Et c'est son petit-fils qui l'a hérité. Et on dit que son petit-fils, chaque fois qu'il y avait un malade, on l'appelait, il venait avec le papier, il le mettait sous la tête du malade, et le malade guérissait. Mais c'est pas un camille, c'est un papier qui vient de l'ange. C'est un papier, c'est pas t'invoques l'ange, c'est ta l'ange dans ta main. Et on dit que, à tel point, et ça a continué comme ça pendant des années, des années, des années. Il n'y a pas de malade. Dès qu'il y avait un malade, il venait, c'est lui qui venait en personne. Il venait en personne, il mettait sous la tête du malade, le malade se réveillait, plus rien. D'accord? Là, il y avait des malades graves, des malades très graves, etc., etc. Et c'était tellement fort que pendant ces 2 années que ça a duré pendant 2 ans, personne n'est mort dans cette ville et ses environs. Et un jour, il y a quelqu'un qui est tombé malade, on est venu chercher le papier, et le petit-fils de Baal Shem Tov cherche le papier, il ne le trouve pas. Donc il était comme un fou, il est retourné toute la maison, vous imaginez, il ne trouve pas le papier. Il parle pas le papier. Alors, c'est lui qui a écrit le livre d'Egel Machane Ephraim, ce petit-fils de Baal Shem Tov. Et il raconte, il dit, donc il était comme un fou. Il a cherché. Et les gens ont retourné toute la maison, ils ont retourné à la maison. Et à la fin, il fait un rêve. Et il raconte à ses élèves, ses gens de la ville, il dit, on vient me dévoiler du ciel, qu'il fallait qu'on récupère ce papier parce que les gens doivent tomber malades et ils doivent mourir à un moment.
D'accord.
Bah, c'est pour vous dire. C'est juste un papier que Baal Shem Tov a reçu. C'est une histoire que j'ai cherchée pour montrer à quel point le Baal Shem Tov vivait dans des miracles. Donc, si vous voyez bien le point commun qu'il y a entre eux, ces trois, entre eux, Moshe Rabbeinu, les miracles, la richesse, la grandeur, le roi David, pareil, la grandeur, la richesse, le Baal Shem Tov, les miracles, en veux-tu, en voilà, jusqu'aujourd'hui encore. On dit des miracles du Baal Shem Tov, on dit une histoire du Baal Shem Tov. Il n'y a que ça. Et il est tellement victime de son succès qu'aujourd'hui, il y a des gens qui inventent les histoires, ils les mettent sur le dos du Baal Shem Tov. Vous savez, une fois, le rabbi, il a dit comme ça. Il a dit qu'on a un problème, enfin, c'est pas un problème avec l'histoire du Baal Shem Tov. Il dit, celui qui croit que l'histoire du Baal Shem Tov, toutes les histoires du Baal Shem Tov se sont passées, c'est un naïf. Celui qui n'y croit pas, c'est un renégat.
Alors
comment on fait? Il dit, il faut croire que toutes les histoires qu'on raconte au Baal Shem Tov ont pu se passer. Auraient pu se passer. On ne sait pas laquelle s'est passée, laquelle s'est pas passée, ça on ne sait pas. Mais on sait qu'il pouvait faire ça. Mais alors, te dire pertinemment que ça s'est passé, et tellement de d'auteurs qui sont passés par là, tellement de romanciers qui sont passés par là, que pourtant bon, l'histoire s'est passée, elle est vraie. Mais ça aurait pu se passer. Donc, vous voyez, 3 tzadikim. Moshe Rabbeinu, le roi David et le Baal Shem Tov. Maintenant, je vais terminer avec ça à l'oral, parce que c'est déjà l'heure. En fait, Moshe Rabbeinu, le roi David et le Baal Shem Tov représentent 3 phases du Ham Israël. On va terminer avec ça. Moshe Rabbeinu représente les Bnei Israël tels qu'ils étaient dans le désert. Dans le désert. Quelle est la particularité du désert? Dans le désert, on était dans un cocon de Torah et de mitzvot, on était protégé, on n'a pas de problème. Tu veux manger, t'as la manne. Tu veux boire, t'as tout ce que tu veux, tu as le pull de Myriam. Tu veux t'habiller, t'as tes vêtements qui sont repassés automatiquement, pas de problème. Ça, c'est dans le désert. Maintenant, les Bnei Israël après arrivent en Israël, en terre d'Israël. Alors là, c'est une autre phase. Là, ils rentrent dans une dimension dans laquelle ils sont dans la matière. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans un cocon du désert, mais ils ont quand même des miracles. Il y a le Beth Amikdash, etc. Mais ils sont dans la matière. Et là, le Baal Shem Tov, il représente quoi? Écoutez bien. Le Baal Shem Tov, il représente le fin fond de l'exil. On dit que le Baal Shem Tov, vous savez pourquoi il s'appelait Israël? Le Baal Shem Tov s'appelait Rabbi Israël. On dit parce que le Rabbi explique comme ça. Il dit que lorsqu'on veut, comment on fait pour réveiller quelqu'un qui est évanoui? On l'appelle par son prénom. C'est une technique. Vous savez, quelqu'un qui t'évanouit, tu vas à côté de son oreille, tu l'appelles par son prénom. On dit que appeler son prénom, ne sont pas son prénom, pas son nom. Pas lui dire réveille-toi, son prénom. Tu lui dis son prénom. Quand tu dis son prénom, tu touches à l'essence de son âme. Comme ça c'est écrit. Ça marche. Hein. Non mais c'est sérieux, ça marche. C'est une technique qui est écrite, c'est connu ça. Que quand on l'appelle par son prénom. D'accord. Bon. Alors maintenant, dit le rabbi, le Baal Shem Tov s'appelait Rabbi Israël. Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'est le nom qu'on lui a donné, mais il s'appelait, le surnom, mais il s'appelait Rabbi Israël. Pourquoi? Parce que lorsque le Baal Shem Tov est arrivé, le peuple juif était en état d'évanouissement. Oui, c'est la réalité. Complètement. C'est-à-dire, avec les vicissitudes de l'exil, la réalité était que le peuple juif était évanoui. Pas mort. On meurt pas, Baruch Hashem. Mais il était évanoui. Et Hashem a dû envoyer un, comment ils appellent ça, là, ce qu'ils font dans les pays? Choc. Électrochoc, comme ça. Électrochoc, hein, qui te réveille, qui nous réveille de cette torpeur dans laquelle on est, qui nous réveille de cet évanouissement. Qui l'a envoyé? Il a envoyé la Chassidoute. Il a envoyé Rabbi Israël Baal Shem Tov. Sans la Chassidoute, on serait pas là aujourd'hui. Après, ça a été repris par-ci par-là, des variantes par-ci par-là, c'est pas la question. Mais il a envoyé le Baal Shem Tov, Hachem a envoyé le Baal Shem Tov pour nous réveiller. Donc vous voyez, on a ici trois dirigeants, trois grands chefs, et chacun correspond à une période différente du peuple juif. Trois périodes. T'as une période dans laquelle on est dans le cocon du désert, détaché de la réalité. T'as une autre période dans laquelle on est en Israël avec le Beit HaMikdash, tout va bien. Et t'as le Baal Shem Tov qui représente une troisième période dans laquelle on n'est ni en Israël. Bon, techniquement, on peut habiter dans la terre d'Israël, mais je veux dire, on n'est ni en Israël avec le Beit HaMikdash, et ni on vit bien, on est en exil. Et là, c'est là que le Baal Shem Tov intervient. Trois périodes, trois générations, trois types, trois maîtres. Pour nous montrer que peu importe la situation dans laquelle un juif se trouve, qu'il soit dans un cocon de Torah, qu'il soit installé en Israël avec le Beit HaMikdash, ou qu'il soit au fin fond de l'exil, sans rien, dans tous les cas, il a la possibilité d'éveiller la royauté qui est en lui. Il n'y a rien qui est plus fort qu'un juif. C'est vrai, des fois tu parles à des gens, tu leur dis pourquoi tu ne fais pas la Torah? Il dit bon, le jour où je serai en Israël, là-bas je ferai. Il dit, je parle à des gens, pourquoi tu ne fais pas la synagogue? Il dit écoute, là je travaille, je mets l'argent de côté, cherche à acheter un appartement en Israël, et le jour où j'aurai l'appartement, là-bas j'irai tous les samedis à la synagogue. Il dit bah, ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle n'a pas été faite pour l'État d'Israël. La Torah a été faite pour le monde entier. Et je vais dire plus que ça. Même si tu vas sur la Lune, tu feras la Torah. Et pas au lait. Parce que, y a, encore une fois, un juif, il doit savoir que c'est un roi. Donc, un roi, ça marche. C'est ça ce que je veux qu'on retienne du cours d'aujourd'hui. Que chacun de nous, il doit savoir, ce soir, vous allez rentrer chez vous, votre femme va vous dire, alors, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Je vais lui dire, j'ai appris que moi, je suis un roi, et toi, t'es une reine. Et toi, t'es une reine. Attention, on va rajouter ça. Ben, si vous voulez pas de problème, d'abord, on vous dit de reine. J'ai appris que toi, t'es une reine, et moi, je suis un roi. Comme ça, vous êtes tranquille.
Il a tout compris.
Mais, on est des rois! Chacun de nous est un patron. Voilà. Donc tu vois David, c'est ton anniversaire, on te souhaite Mazal Tov encore une fois. La prochaine fois que tu as quelqu'un patron, tu comprends la dimension que tu as quand tu as quelqu'un patron. Meller. Meller.
Vous avez compris pourquoi je vous appelle patron?
Patron. C'est pas patron, c'est roi. Roi. Meller. Voilà.
Patron du roi, c'est bien.
Bon, il y avait encore beaucoup de choses. Il y avait encore beaucoup de choses à développer. Avec la tefila, etc., les mitzvot. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être une autre fois, on continuera. Mais déjà, en tout cas, on a retenu une idée, l'idée de la royauté. Voilà, les chaim, chaim. Mazal Tov, bien sûr.
Pardon. Et on a fini le cours.